peut dire juste Jussieu ?
Ouais.
Jussieu.
Boulop.
Jussieu. Lâchez-vous un peu, quoi.
Université Pierre et Marie Curie.
Radio Campus Paris. P6.
Radio Campus Paris. Ouais, vous avez l'air très stressé, ça va aller, hein ?
Je crois qu'on est prêt pour l'émission, là.
Ou musique et science.
Radio Campus Paris.
Beaucoup de musique, je pense.
Là, c'est bon, ça rentre.
Des surprises, peut-être pas des surprises, je sais pas, on verra.
Ce teaser, que c'est bon. Enfin, je sais, il y a pas grand-chose en fait, c'est ça, pour la...
Non, c'est tout.
Je suis sûr, j'ai déjà appris Radioactif. Science, moi. T'apprends des trucs, mais bombe atomique.
Hein, tu disais quoi ?
Radio Amiante.
Salut à tous, vous écoutez Radio Campus Paris et vous êtes bien branchés sur Radio Amiante, une émission articulée autour de la musique, du son, de la technologie et de la science. Alors on est sur le campus de Jussieu, il fait moche et froid mais je suis en bonne compagnie. Aujourd'hui nous recevons Mathias et Edouard, les Dupont et Dupont de notre émission, Raffaello, l'homme à la voix suave, et Victor, bien aussi connu sous le nom de Big Daddy Dove, parce qu'il a la peau douce. Et ce sont nos chroniqueurs qui vous ont concocté des sujets aux petits oignons. Et enfin, notre invité d'honneur, Jean-Louis Lecarrou, membre de l'équipe du LAM, le laboratoire Lutherie Acoustique Musique, et maître de conférence à l'université Pierre et Marie Curie. Alors, pour la prochaine heure, c'est tout un programme. Victor nous présentera la bande magnétique, un objet plein de mystères. Raffaello nous fera un petit tour de l'horizon musical des scientifiques. Et nous aurons le plaisir de discuter avec notre invité, Jean-Louis Lecarrou, un échange mené par Mathias et Edouard, et bien sûr ponctué d'interludes musicaux. Bonjour Mathias.
Salut.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour.
Alors donc, vous êtes Jean-Louis Lecarrou et vous bossez au LAM, le LAM qui est donc le laboratoire Lutherie Acoustique Musique, qui appartient à l'Institut Jean Leron d'Alembert, si je me souviens bien. Alors,
première question la plus importante, qu'est-ce que c'est le LAM, s'il vous plaît ?
Alors le LAM, c'est une équipe donc de l'Institut Jean Leron d'Alembert, comme vous l'avez dit, qui est le plus gros laboratoire de mécanique d'Île-de-France. Donc, qui est constitué de 5 équipes, dont une des équipes, c'est l'équipe Lutherie Acoustique Musique. Alors, c'est une équipe un peu particulière. Donc, c'est une équipe, comme l'Institut, qui est une UMR, Unité Mixte de Recherche CNRS, UPMC, qui a aussi des financements du ministère de la Culture. Donc, pour travailler sur un objet un peu particulier, qui est la musique, et l'objet culturel aussi, sur les instruments de musique, d'une manière un peu générale. Donc, cette équipe a une... Notre particularité, c'est de mêler à la fois les sciences de l'ingénieur et les sciences humaines. Donc les sciences de l'ingénieur, c'est l'acoustique, la mécanique, le traitement du signal. Et les sciences humaines, c'est la psychologie cognitive, la linguistique. Donc tout ça mêle des chercheurs, donc une petite équipe, où on mêle un peu tous ces travaux-là, aussi bien en traitement du signal qu'en acoustique, à la linguistique, à la psychologie cognitive. Voilà, donc c'est ça le LAM.
D'accord.
D'accord. Et donc je me demandais aussi, est-ce que ça vous arrive de travailler avec éventuellement d'autres laboratoires spécialisés dans la musique, tels que l'IRCAM ou le GRM par exemple ?
Oui, tout à fait. Donc on est une équipe pluridisciplinaire, mais on travaille beaucoup avec l'extérieur, notamment actuellement avec le développement de Sorbonne Université, donc qui est la COMUE qui rassemble beaucoup d'universités au centre de Paris. Donc on développe actuellement un collégium musicae où on regroupe un peu les musicologues de l'IRMUS de Paris 4. Donc ceux qui travaillent autour des instruments de musique et des nouvelles lutheries donc à Paris 6, donc l'IRCAM et l'équipe LAM. Le Muséum d'Histoire Naturelle avec nos collègues ethnomusicologues, les collègues biomécaniciens de l'UTC, Université Technologique de Compiègne, je pense ne pas en oublier. Voilà. Donc on développe tout ce réseau-là au centre de Paris, mais après il y a tout un Paris et Compiègne. Et après on est dans un réseau extrêmement présent dans le groupe spécialisé d'acoustique musicale, donc au sein de la Société Française d'Acoustique, où on travaille avec nos collègues de Marseille, de Lyon, du Mans. Enfin voilà. Donc on a un réseau national et aussi international, puisque beaucoup de notre spécificité fait qu'en fait, il n'y a pas d'égal ou quasiment pas d'égal dans le monde. Donc on travaille beaucoup avec nos collègues de Montréal, du Kermit, où voilà, on a des échanges assez quotidiens, en Australie aussi. Donc voilà, on a un réseau assez dense.
Donc j'avais une question par rapport à la lutherie. Vous faites des instruments, c'est ça ?
Alors nous, on ne fabrique pas d'instruments.
Oui, d'accord.
Voilà. On travaille sur comprendre le geste du luthier. Une partie de nos travaux sont ça, sont comprendre le geste du luthier. Donc on travaille évidemment avec des luthiers, avec des apprentis luthiers, notamment à l'Institut technologique européen des métiers de la musique au Mans. On travaille aussi sur l'histoire des instruments, essayer de comprendre un peu des évolutions techniques qui peuvent avoir eu lieu au cours du temps avec nos collègues de la Cité de la Musique notamment et du Musée de la Musique. Donc on ne fait pas de lutherie en soi. Si on est amené à concevoir pour des protocoles expérimentaux des instruments, là on s'appuie sur le savoir-faire de ceux qui savent faire, donc des luthiers, aussi bien instruments avant que instruments solides à cordes.
D'accord. Et donc je me demandais aussi justement parce que pour moi la lutherie c'est quelque chose de purement empirique en fait. C'est-à-dire que pour un pie que je n'y connais absolument rien en musique, encore moins en instrument. Un luthier pour moi est quelqu'un qui possède une grande expérience dans la facture d'instruments de musique. Et donc je me demandais comment le LAM intervient éventuellement dans le processus. Est-ce que vous intervenez déjà dans le processus des luthiers, dans le processus de fabrication d'instruments? Et si oui, comment?
Alors la lutherie, c'est un bien gros mot en fait. On pourrait classer les lutheries dans plusieurs types de lutheries. Il y a la lutherie, peut être classée par certains auteurs comme savante, donc qui est liée à un apprentissage, donc liée par des années d'apprentissage par un maître d'apprentissage. Donc cette lutherie-là, violon et ainsi de suite, guitare. Il y a de la lutherie, un peu scientifique, donc tout ce qui est attrait à l'ordinateur. On peut aussi estimer que concevoir un instrument, c'est-à-dire une synthèse sonore faite par un ordinateur, est une sorte de lutherie. Voilà. Il y a de la lutherie industrielle, où là, c'est plutôt une industrie qui conçoit un instrument. On va dire que plutôt la harpe, le piano, la plupart des instruments avant sont conçus dans un processus industriel. La guitare électrique, notamment, qui est un instrument assez particulier par rapport à ça. Après, il existe des lutheries type sauvage, où là, on utilise des matériaux de récupération et on fait de la lutherie. Ou des lutheries que chacun peut faire avec ses doigts et concevoir un sifflet avec un bout de bois. Donc, quand on considère toutes ces lutheries-là, on se dit... qu'est-ce que nous, on peut apporter? Donc, alors, ce qu'on peut apporter, en tout cas pour la lutherie, on va dire, savante, c'est essayer de comprendre un geste du luthier. Pourquoi, au cours du temps, il y a tel ou tel aspect qui s'est fait au cours du temps, par exemple dans la flûte, pourquoi le biseau à la fin du canal, il est fait de cette manière-là, et si on ne le fait pas de cette manière-là, alors la flûte à bec, par exemple, ne sonne pas. Pourquoi, au cours du temps, par exemple dans la harpe de concert, il y a eu une modification au niveau de son fonctionnement? Qu'est-ce que ça a apporté au niveau des sonorités? Donc là, on peut apporter une expertise. Après, sur la lutherie, on va dire savante, on peut, au travers des modèles qu'on peut développer, on peut évidemment proposer aux gens qui développent des logiciels et des outils pour concevoir des sons un peu particuliers, par exemple. Là, on peut aider à la conception de nouveaux modèles et ainsi de suite, et peut-être aider à la conception d'outils qui pourront servir à de la lutherie plutôt électronique, quoi, ou électroacoustique. Donc, c'est un panel assez large. Je ne sais pas si j'étais très clair dans ma réponse. Pour la lutherie industrielle, je finirai juste là-dessus. Là, on est sur des problématiques assez particulières. C'est qu'on veut, par exemple, un minimum de variabilité d'instruments à la fin de chaîne de fabrication. Donc, sur le cas de la guitare électrique, c'est un cas assez particulier. Et là, on peut essayer d'apporter des outils de suivi de processus de fabrication, par exemple.
D'accord. Je vous propose une petite pause musicale avec un artiste qui s'appelle Clap Clap sur le titre « Achico ». Clap sur le titre Hachiko. Et maintenant, il semble-t-il que c'est un titre qui s'adapte parfaitement à la chronique de Victor. Bonjour Victor.
Bonjour.
Oui, ça va ?
Tout à fait. Du coup, moi je vais vous faire une chronique dans laquelle on va s'intéresser un peu à ce qu'on appelle communément la dance music. C'est tout un monde, toute une culture à part entière qui prend ses racines au début des années 80 et dont on assiste peut-être aujourd'hui à l'âge d'or. Pour faire vite, la dance est née dans les milieux alternatifs de Détroit et Chicago et a rapidement trouvé résonance dans l'Allemagne réunifiée des années 90, puis ensuite dans le reste du monde. On trouve des scènes particulièrement intéressantes et prolifiques en Allemagne, en Angleterre et en Afrique du Sud, pour ne citer que. L'appellation vient du fait que c'est une musique principalement diffusée dans les clubs, les raves ou les festivals. De par ses origines, sa philosophie et son mode de diffusion, elle est d'abord une musique alternative, alimentée et appréciée par une population en marge. Elle se démocratise au cours des années 90 et finit par devenir un énorme phénomène au début des années 2000. La techno particulièrement devient alors selon certains médias la bande-son du nouveau millénaire. Cet intérêt soudain attire les majors. On uniformise, on lisse pour mieux vendre et vendre au plus grand nombre. Et bizarrement, la qualité globale des productions se dégrade. Mais les écrasantes machines culturelles oublient une chose. La dance, c'est fait pour danser. Danser ensemble. Et on l'écoute dans les endroits où il est possible de le faire, et on ne peut pas faire ça chez soi. Les ventes de CD font un flop, Sony prend une ride, et on oublie bien vite toute cette triste histoire. La dance retourne un peu fatiguée, mais heureuse d'en finir avec ses conneries, sur son terrain natal, l'underground. Et ce sont les acteurs des premiers jours, et les nouveaux passionnés, qui continuent depuis la recherche musicale et l'entretien de la flamme. La dance, c'est de la musique électronique. On la produit à l'aide de machines et d'ordinateurs. Elle dépend donc fondamentalement des technologies disponibles. J'ai voulu aborder cet aspect à travers une invention dont l'histoire est tout aussi étonnante, qui va nous propulser un siècle et demi en arrière, la bande magnétique. Si vous vous souvenez bien, c'est ce qu'il y a dans les cassettes, mais on y reviendra plus tard. Nous sommes au 19e siècle. La civilisation occidentale est obsédée par l'idée de capture. Un peu comme si le monde était un Pokémon légendaire, mais que personne n'avait encore inventé les Pokéballs. En gros, on aimerait bien attraper des fragments de réalité et les restituer plus tard ou plus loin. Et ça n'a pas loupé. C'est là qu'apparaissent entre autres la photographie, le cinéma et l'enregistrement sonore. On va se concentrer sur ce dernier. Le premier des principes de l'enregistrement sonore est toujours d'actualité. Je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. L'idée, c'était de transformer l'énergie acoustique en énergie mécanique, puis de se servir de cette énergie mécanique pour déformer un support matériel qui devient alors la mémoire de l'information sonore. En gros, au tout début, tu criais dans un pot attaché à une aiguille et ça le faisait vibrer. L'aiguille rayait un bout de bois qui tournait sur lui-même et l'information de ton cri y était enregistrée. Bon, sauf que c'était pas vraiment ni un pot, ni une aiguille, ni un bout de bois qu'ils utilisaient, mais l'idée est là. Un peu plus tard, entre toi qui bugle dans le pot et l'aiguille, on a rajouté un circuit électrique. Comme ça, on a pu amplifier le signal et gagner en puissance et en précision. C'est le principe du vinyle et aussi à 50 ans d'avancée technologique près, celui du CD. Bien. Mais parallèlement à tout ça, les avancées des théories de l'électromagnétisme permettent les premiers balbutiements, à la toute fin du 19e siècle, de l'écriture sur bande magnétique. Le principe est assez différent. Au lieu de taper sur un bout de bois, on modifie la polarisation des particules magnétiques d'un fil métallique, et c'est la polarisation de ces particules qui nous donne l'information sonore. Pas que sonore d'ailleurs, l'avantage avec cette technique, c'est qu'on peut en fait enregistrer n'importe quel type d'information. Plus tard, on introduit ces particules dans une bande souple pour faciliter le processus. Même si au début tout le monde s'en fout un peu, la technique progresse vite et le premier brevet est déposé en 1928. Les Américains trouvent ça nul, mais c'est un succès retentissant en Allemagne. Tout au long de la période fasciste, et ce jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le support y est développé. Si bien qu'à la libération, les Alliés le redécouvrent et le retrouvent grandement amélioré. Le succès, cette fois, est mondial et nous amène à notre prochaine grande date, l'apparition en 1963 de la compact cassette de la marque Philips. Et la compact cassette, c'est en fait la cassette qu'on a tous connue. Est-ce que vous vous en souvenez ?
Parfaitement, oui.
Tu t'en souviens ? Bien sûr, ouais. Carrément.
C'était quoi votre cassette favorite ?
C'est des beaux souvenirs, hein. On est d'accord. Ma préférée, c'était celle que j'ai enregistrée en fait. J'avais un magnétophone quand j'étais petit, mes parents ils m'ont acheté ça. Et j'ai pu enregistrer en fait toutes les jams que je faisais chez moi quand j'étais petit, sur du funk.
Et toi, Raffaello ?
Moi, j'ai enregistré plein de cassettes pour les voyages que je faisais avec mes parents depuis que j'étais tout petit. Et je les obligeais à les mettre pendant nos voyages. Et je les obligeais à m'acheter des cassettes aussi dans la rue. Et je me souviens, les premières cassettes que j'ai obligé mes parents à acheter, c'était le premier album des Spice Girls Et le premier album d'Aqua.
Si, si.
I'm a Barbie girl.
C'était pas mal.
Bon, bah voilà, on a tous des merveilleux souvenirs avec la cassette.
Moi, je me rappelle, dans la voiture, comme on n'avait pas de CD, même jusqu'en 2000, on écoutait des cassettes et c'était les musiques malgaches de mon père, les musiques du Bled. Des très beaux souvenirs.
Bon, et bah voilà, vous avez un peu anticipé. Et bah, elle est très petite et très pratique, cette cassette. Et c'est elle qui a donné toutes ses lettres de noblesse à la bande magnétique, en tout cas pour l'enregistrement sonore. Pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui fument déjà, c'est un petit boîtier à peine plus grand et moins épais qu'un paquet de clopes, avec deux gros trous dedans. Et c'est surtout un immense succès commercial à sa sortie. On peut écouter sa musique dans sa chambre, dans sa voiture et même dans la rue grâce au Walkman. On peut aussi enregistrer soi-même. Et je crois que c'est ça la grande révolution. Personne n'a jamais de presse à vinyle chez soi. C'est gros, lourd, cher, ça fait du bruit et c'est un vrai casse-tête à utiliser. Pas très pratique donc. Mais avec un magnétophone, on peut enregistrer des morceaux depuis la radio, depuis des vinyles ou depuis d'autres cassettes. Et c'est là que vous vous dites que vous voyez toujours pas le rapport avec Jeff Mills et que je vais vous faire rater les Marseillais en Thaïlande avec mes conneries. Et c'est tout à fait légitime. D'autant que la dance n'apparaît pas dans le paysage musical avant 20 ans après celui de la cassette. C'est-à-dire en même temps que l'invention du CD, bien plus pratique et qui a d'ailleurs supplanté celle-ci de manière radicale. Alors pourquoi je m'époumonne sur la bande magnétique depuis 5 minutes, me demanderez-vous ? Eh bien, premièrement, parce que jusqu'à la fin des années 90, il restait quand même plus facile et moins coûteux de posséder, lire et surtout enregistrer des cassettes. Les premières vagues d'amoureux du kick se sont donc d'abord échangées des cassettes, avant de s'échanger des CD et bien avant encore de s'échanger des liens YouTube. Ensuite, même si ces 100 ans d'histoire d'une technologie n'a percuté le milieu que pour une décennie, je trouve que le format cassette est un peu à l'image de la culture dance. Je m'explique. Quand on y réfléchit, avec la cassette est né le concept même de piratage. C'était la première fois qu'on pouvait faire de réels enregistrements soi-même. Ça a beaucoup favorisé les échanges, l'accessibilité et donc la croissance de la culture, quel que soit l'univers musical concerné. C'est un format qui a permis d'aborder la musique non pas contre ni avec le système, mais en dehors du système. Et j'aime à croire que cela a aidé à dessiner naturellement les grands principes de la musique underground et de la culture qui l'entoure. Une poignée de cheveux arrachés plus tard, on peut même dire que, comme la dance music, la bande magnétique est née et a grandi un peu en marge. Puis qu'elle a, comme la dance music, rencontré un écho international de par ses avantages et son intérêt objectif. Aujourd'hui, cette petite boîte en plastique finit tranquillement ses jours dans les boîtes à gants des voitures de nos parents ou dans les studios des producteurs les plus chevronnés. Bien heureusement, art et technologie, souvent entrelacés, sont deux choses distinctes. Et nous, amis danseurs, nous ne finirons pas comme la cassette. En fait, j'aime à penser que nous ne finirons tout simplement pas.
Ouais, merci Victor. Alors Jean-Loïc Le Carrou, vous écoutiez quoi comme cassette à l'époque ?
Moi, c'était à l'époque du Hit Machine, hein. Vous ne connaissez pas ça ?
Charlie et Lulu.
Voilà, c'est ça. C'est marrant hein, cette chronique là sur la cassette au sein du LAM. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, mais il y a tout un pan sur la pérennité des supports audio. Il y a tout un collègue qui travaille plutôt au ministère de la Culture, qui travaille plutôt sur tous ces supports là, être capable de pouvoir relire n'importe quel support et le numériser pour pouvoir l'entendre et l'archiver. Ce qui est assez étonnant avec l'évolution actuelle, c'est que par exemple on est sur le Blu-ray et la durée de vie d'un Blu-ray elle n'est pas mieux qu'un CD, donc on est sur des supports qui sont périssables et dont on essaie d'estimer à partir de quand ils ne pourront plus être relus. Donc ça c'est des maths, c'est à partir de quand il y a un taux d'erreur suffisamment important pour qu'on ne puisse plus relire ces CD et ces Blu-ray. C'est vraiment une problématique assez importante. C'est pour ça qu'on revient aux bandes magnétiques. Hein. Il y a tout ce qui est stockage et c'est fait sur des bandes magnétiques. Hein.
Absolument. Et d'ailleurs, la durée de vie d'une cassette, en l'occurrence, c'est 30 ans, je crois. Donc c'est pas mal. Et en effet, là, je ne l'ai pas dit, j'ai fait beaucoup de raccourcis hein, dans la chronique, mais en effet, un des gros avantages de la bande magnétique, c'était en fait la capacité de stockage qui est énorme. Et en effet, aujourd'hui encore, c'est très utilisé pour les stockages sur les gros serveurs. C'est encore utilisé. Bon, je me suis plutôt concentré sur la musique. Mmh. Voilà.
Mais d'ailleurs, la redécouverte de supports qui sont un peu anciens de musique, qui datent peut-être des années 60, alors qu'on est en 2015, ça fait partie d'un mouvement artistique. Par exemple, dans le hip-hop, c'est un peu le concept de sampler, de reprendre des morceaux de pièces musicales qui datent d'il y a longtemps, qui ne sont pas forcément accessibles à nos jours parce que c'est de la musique qu'on a oubliée ou perdue. Est-ce que vous pensez que c'est une démarche plus d'artiste ou de scientifique ?
Ça dépend de l'objectif. Si l'objectif, c'est d'archiver ces sons pour avoir une certaine pérennité. Donc, quand on dit archiver, c'est comme Google. Oui. Ça veut dire qu'il faut trouver des mots-clés ou des phrases-clés qui permettent de retrouver ces musiques-là. Ce n'est pas si évident que ça, en fait. Hein. Donc, quand on parle d'archives ou donc d'essayer de définir des descripteurs audio qui permettent de pouvoir archiver et classer ces musiques-là, là, on est vraiment dans une démarche scientifique. Après, si c'est à but musical et d'archiver pour pouvoir être samplé, par exemple, ça, c'est une démarche plutôt artistique, oui. Mais je pense que les deux vont de pair, en fait.
D'accord. Et vous alliez ces deux facettes dans votre travail ?
Alors, moi, dans mon travail, pas. J'ai des collègues, oui. Derrière tout ça, il y a aussi, je parlais un peu des ethnomusicologues, une des facettes aussi de l'ethnomusicologie, c'est d'aller sur le terrain et d'enregistrer des chants qui sont liés à une pratique dans une certaine ethnie et ainsi de suite. Et on a des enregistrements comme ça depuis 50 ans, 60 ans, même plus. Et il y a tout un travail actuellement, notamment au sein du LAM, mais avec ses collègues dans le cadre d'une ANR, c'est d'essayer d'archiver ça dans une espèce de plateforme libre de tous pour pouvoir être réutilisée et étudiée pour les scientifiques. Mais on peut imaginer d'autres applications.
Et du coup aussi, je me demandais, on parle d'archivage, de pérennité, etc. Est-ce que vous pensez que tout comme aujourd'hui, il y a des restaurateurs de tableaux, de pierres, est-ce qu'il y aura des restaurateurs numériques qui vont exister au bout d'un moment ?
Alors, indirectement, ça existe déjà. Parce que dans tout lecteur CD, par exemple, il y a quelque chose qui corrige les erreurs. Jusqu'à un certain point où il y a trop d'erreurs pour être corrigées, et donc on entend un petit clic ou des choses comme ça. Donc, quelque part, ça existe déjà. Mais ça, c'est une question qui est actuellement vraiment en œuvre à la Cité de la Musique, notamment, je ne sais pas si vous avez fait une visite. Mais à la fin de votre visite, vous allez voir les instruments de musique d'il y a 30, 40 ans, les synthétiseurs et ainsi de suite. C'est toute une réflexion sur le métier même de restaurateur. Comment ces instruments, est-ce qu'il faut les laisser ? Est-ce qu'on peut continuer à les faire vivre ? Sachant que tous les supports vont changer, le système, je dis n'importe quoi, le système de prise par exemple va changer, on ne pourra peut-être plus les mettre en marche. Donc il y a toute une réflexion à avoir sur ces métiers-là, qui n'est pas actuellement abouti, hein, mais on est en plein dedans. Sur les nouveaux instruments, on va dire des 40 dernières années, hein, même les premiers synthétiseurs, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on les archive d'une certaine manière dans un musée ? Est-ce qu'on peut encore les utiliser ? Est-ce qu'on... un peu la même problématique qui s'est posée sur les instruments, on va dire, conventionnels. Est-ce qu'on les met sous tension, on met les cordes sous tension ou pas ? Là, ça va être pareil, c'est les mêmes problématiques qui vont arriver sur les instruments donc type synthétiseur, ordinateur et autres. Parce que moi, je suis de l'époque de l'Atari. L'Atari était le premier ordinateur pour vraiment faire de la synthèse et faire de la musique avec. Et faire fonctionner un Atari maintenant, c'est pas si évident que ça, quoi.
Mathias.
Du coup, je voulais savoir, vous avez parlé de ce que faisaient vos collègues par rapport à la cassette, et qu'est-ce que vous faites vous dans l'âme précisément, votre travail en ce moment ?
Alors en ce moment, donc je travaille sur, on va dire, sur deux grands aspects, donc sur le contrôle instrumental, donc tout ce qui est en lien avec l'instrument et l'instrumentiste. Donc une problématique par exemple, c'est pourquoi quand un musicien joue un instrument, qu'un autre musicien joue le même instrument, on n'a pas le même son. Pourtant, mécaniquement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, c'est juste que le contrôle a été différent. Donc quels sont les paramètres pertinents qui permettent de se rendre compte d'une différence d'une personne ? Derrière ça se posent des questions d'ergonomie, c'est-à-dire qu'il faut être capable de jouer un instrument. Pour qu'un instrument puisse être joué, il faut que les efforts articulaires soient raisonnables. Donc un cas limite intéressant sur lequel je travaille, c'est l'arpe de concert. On est sur un instrument où on est à la limite de pouvoir le jouer avec les doigts. Au niveau de la tension des cordes, quand on prend des instruments où la tension est un tout petit peu plus importante, on arrive sur le piano, clavecin, où là on utilise un artifice pour pouvoir exciter les cordes. Donc là c'est plutôt un volet contrôle instrumental, et j'ai un autre dada, c'est plutôt le geste du luthier, les choix et stratégies des luthiers. Donc là, actuellement, donc je travaille beaucoup sur le clavecin. Alors, je reviendrai sur la notion de « je travaille beaucoup ». Le clavecin est une histoire assez particulière. Donc, il a été, c'est un instrument qui s'est beaucoup développé à une certaine époque, qui est qui est tombé un petit peu dans l'oubli quand le piano forte et le piano sont l'avènement de ces instruments-là. Et puis, il y a un renouveau actuel sur le clavecin, notamment sur le contrôle instrumental, donc on revient. Mais là, l'intérêt, c'est que le geste du luthier et le contrôle instrumental se fait à peu près au même endroit. Donc, donc le clavecin, vous n'avez peut-être pas ça trop en tête, hein, c'est un instrument à cordes. Donc, il y a une touche qui fait basculer un petit levier sur lequel il y a une toute petite languette, donc qui s'appelle un plectre ou un bec, le vocabulaire qu'on utilise. Et ce bec-là, il a une forme très très particulière. Et le luthier va le gratter d'une certaine manière pour avoir une homogénéité sonore, mais aussi tactile et haptique de tout l'instrument. Donc on essaie de comprendre un petit peu comment il fait ce geste, pourquoi il le gratte d'une certaine manière en fonction du morceau qui va être joué, du musicien qui va être joué, et ainsi de suite. Il y a des stratégies, et on travaille aussi en particulier avec la Cité de la Musique et le Musée de la Musique sur comprendre aussi l'histoire un peu de ces réglages qu'on appelle l'harmonisation de l'instrument, qui va permettre aussi de nous aider à mieux comprendre l'histoire de l'instrument au travers des restes qui nous restent de par l'évolution. Alors, sur le geste du luthier, je travaille aussi pas mal sur la guitare électrique. Donc, vous voyez, c'est un peu différents styles. Hein. Donc, la guitare électrique est un excellent exemple d'instrument de musique donc développé par l'industrie, pour l'industrie de masse et pour la musique actuelle.
Excusez-moi de vous interrompre. Donc, en gros, la guitare électrique a été inventée pour correspondre à une chaîne de production ou ça a été vraiment...
C'est un instrument qui a été développé par l'industrie. D'accord. Donc tout a été fait de telle sorte que ce soit fait par un industriel et pour un développement de masse. Donc c'est un objet commercial d'une certaine manière.
C'est pas une démarche artistique pour changer éventuellement la note, c'est plus une démarche industrielle. Quoi, en
fait. C'est oui, je suis pas spécialiste sur cet aspect, mais c'est un instrument particulier de ce fait-là. C'est-à-dire que ça a tout le temps été pensé pour d'un point de vue industriel. Il n'en demeure pas moins qu'il existe des luthiers qui fabriquent des guitares électriques de très bonne facture, hein. Mais si on demande aux gens dans la rue pour eux c'est quoi une guitare électrique, ils vont dire soit une Gibson, soit une Fender. Il y a des stéréotypes, hein, qui sont développés pour ça. Sur la guitare électrique, c'est assez intéressant parce que là c'est plus proche du commercial, c'est-à-dire que on a développé certains bois, des manches fixées de telle manière, ça fait améliorer le son de telle manière. Donc ça, c'est vraiment un argument commercial. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de comprendre est-ce que ces arguments commerciaux étaient aussi si vrais que ça. Et donc, on a essayé de déploter un peu la pelote de laine de la guitare électrique pour essayer de comprendre si tous les éléments de lutherie avaient une influence sur le son. Et pas uniquement le microphone. Donc le bois, le système de fixation, donc aussi bien de manière perceptive, donc avec des tests de perception faits avec des guitaristes professionnels, que mécanique, en faisant des mesures dont on a l'habitude de faire. Autrement, donc actuellement, on continue un peu sur la guitare électrique et la basse électrique, sur essayer de comprendre physiquement ce qui se passe quand on a des chevalets un peu particuliers, type Buzz Bridge, ou quand on joue à la basse en slap, où on vient frapper les cordes sur les frettes. Hein. Donc ça, c'est un son assez particulier, donc il y a d'autres instruments avec ce type de son, donc on appelle ça des vibrations non linéaires à contact unilatéral, pour le vocabulaire du mécanicien.
Très bien, très bien.
Je vous propose d'écouter une chanson qui est forte à propos. Justement, c'est Lo Jack avec ses bâtonniers fous sur un titre qui s'appelle FM Sticks, qui est forte à propos du coup, qui mêle un aspect un peu plus naturel et un aspect un peu plus électronique. c'était un extrait du titre FM Styx composé par Low Jack. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris.
Radio Amiante.
Raffaello, tu nous fais une chronique sur ce qu'écoutent les chercheurs, c'est bien ça?
C'est ça, je suis allé voir, je suis allé discuter avec des chercheurs à l'UPMC pour faire une sorte de chronologie de la musique qu'ils écoutaient pendant leurs études et ce qu'ils écoutent aujourd'hui. Donc d'abord, nous allons écouter Mathieu Bertin et Xavier Michaud, maître de conférence et chercheur au laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphère, le LERMA.
Moi, pendant mes études, les études, elles ont duré un peu longtemps du coup, mais du moins tout au début, moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était le deuxième album de Radiohead, donc The Band, que j'avais découvert sur le tard parce qu'il était bien sorti 10 ans avant, et que je me suis passé en boucle facilement pendant 6 mois, je pense. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué. Et puis après, c'était les débuts de Coldplay, quand ils faisaient des trucs qui étaient encore pas mal. Il y avait tout un tas de groupes qui sont maintenant considérés comme des vieux clous, un peu sur le retour, du style Muse qui sortait. Il y avait du rock français qui était vachement bien à l'époque. T'avais Cox, t'avais Aston Villa, t'avais tous ces trucs-là qui sortaient. Ça, c'était vraiment mes premières années à la fac. Et je m'en souviens, j'étais très client, moi, de ces trucs-là.
Moi, c'est plus vieux, donc ça va être plus dur pour me rappeler. Mais en fait... C'était plutôt des trucs genre punkos français, genre Gogol Premier, La Horde. Ça fait marrer. Non, mais j'écoutais surtout, je pense, plus de la musique française, genre Higelin, Thiéfaine. Moi, ça, c'était vraiment les trucs que j'écoutais à l'époque, au début de mes études. Après, j'ai évolué vers des... J'écoutais pas trop la musique anglo-saxonne, puis c'est venu après. Donc, c'est étrangement, j'écoutais plutôt des trucs des années 70 pour tout ce qui était anglo-saxon. Donc, genre Grateful Dead, j'aimais bien Jefferson Airplane, que des groupes comme ça, un peu californien, un peu baba cool. Non, ça a changé après. J'ai toujours écouté un peu la même chose jusqu'à la fin de mes études.
Ouvert à d'autres trucs, mais enfin moi je suis passé, je pense que tous les 2 ans je changeais de groupe fétiche. J'ai eu ma période Pink Floyd quand j'étais en maîtrise, enfin en M1 maintenant. J'ai eu ma période Red Hot Chili Peppers où j'avais redécouvert Mother's Milk, qui était un super album, enfin je trouve. Quand ça devait être, j'étais en deuxième année, quand j'étais en licence. Ah oui, si, j'ai eu ma période soi-disant punk californien où j'écoutais que du Offspring. J'ai eu retour sur Metallica aussi. Et même redécouvert Maiden sur le tard. Non, mais moi j'ai tout fait dans le désordre. Et vers la fin de mes études, je m'ouvrais de plus en plus vers la musique électro que je connaissais pas bien. Électro, électro-jazz, hein, des trucs du style. Morshiba, à la limite plutôt du style Déphase, qui a un groupe berlinois qui est super bien. Et je me suis ouvert petit à petit sur ces trucs-là, et jusqu'à transiter maintenant, ça fait partie de la musique que j'écoute presque le plus. Là, je suis vraiment tombé dans l'électro un peu planant, du style R, M83 ou des choses comme ça. Bah moi, je me vois pas bosser en particulier quand je dois écrire quelque chose, donc où j'ai besoin d'être vraiment concentré, donc que ce soit un sujet d'examen, la rédaction d'un article, ou écrire un projet ou quoi que ce soit. Moi, c'est la musique à fond dans la tronche. Et alors ça, j'écoute Phoenix, ça m'aide beaucoup à écrire. Cocoon aussi, ça marche bien. Et puis quand j'ai besoin d'être un tout petit peu plus énervé, je me mets un bon vieux... Comment il s'appelle le groupe de Dave Grohl là? Les Foo Fighters. Voilà, ça marche très très bien aussi. Moi, la musique, quand je bosse, elle est toujours là. Enfin, elle est jamais très très loin, quoi. Il y a que quand on vraiment fait des expériences en labo où là, il vaut mieux éviter de mettre la musique à fond parce que si on n'entend pas que la pompe turbo s'est arrêtée, ça peut poser un problème. Mais
ah oui, j'ai toujours écouté de la musique en travaillant, surtout pour ma pareil, pour rédiger. Quand j'ai rédigé, je pense que j'aurais jamais réussi à rédiger ma thèse si j'avais pas un Walkman sous les oreilles. Et puis même encore maintenant, j'ai du mal à rédiger, mais si j'écoute pas de musique, j'arrive pas. Ça m'emmerde. Enfin, j'ai l'impression que je m'ennuie, donc là, ça m'occupe.
Nous avons écouté Mathieu Bertin et Xavier Michaud. Une petite précision, Mathieu Bertin, il a environ 30 ans. Xavier Michaud a environ 40 ans. Ça peut expliquer un peu les goûts musicaux différents.
Alors, on est toujours sur le campus de Jussieu avec Jean-Loïc Lucarou. Et il va nous parler un peu plus de lui-même. Pas vrai, Mathias?
Oui, en effet. Alors, pour faire écho à la chronique de Raffaello, qu'est-ce que vous écoutez comme musique et qu'est-ce que vous avez écouté comme musique aussi?
Alors, qu'est-ce que j'écoute comme musique? Déjà, je préfère le live que l'enregistrement, en fait. Je trouve qu'il y a une spatialité et une sonorité qui est particulière. Et je préfère le live. Qu'est-ce que j'écoute ou qu'est-ce que j'ai écouté? Alors, je serais plutôt, de par ma formation, plutôt musique classique. Donc, j'aime pas mal certains compositeurs symphoniques. Après, j'ai beaucoup aussi aimé, ou j'aime toujours le jazz. J'ai joué dans des big bands et là, c'est vrai que je me suis ouvert à un certain nombre de thèmes musicaux, comme la musique afro-cubaine, par exemple, qui est assez intéressante. Après, électro-jazz aussi, ça me plaît pas mal. Donc voilà, après... différents types de groupes, je suis pas sectaire par rapport à ça.
Et donc chercheur au LAM, quel est votre parcours scolaire finalement pour arriver à ça, pour éventuellement inspirer des gens qui nous écoutent?
Alors mon parcours scolaire, donc on peut mettre aussi en parallèle mon parcours musical, donc puisque un projet comme ça, ça se mûrit. Pendant le collège et le lycée, j'étais beaucoup plus au conservatoire que à travailler mes cours. Puis à un moment donné, il faut être un peu sérieux. Donc j'ai fait une classe prépa tout en continuant à faire de la musique, après une école d'ingénieur. Après, pendant les classes prépa, ça m'a permis de bien me poser des questions sur mon avenir. Et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment fonctionnaient les instruments de musique. Donc c'est vraiment là où je me suis dit, c'est vers là. Donc j'ai choisi une école d'ingénieur où j'ai tout de suite évoqué mon projet professionnel et ça ne les a pas du tout rebutés. Donc j'ai continué un peu là-dedans. J'ai fait des projets d'étudiants tout le temps dans la même dynamique. Et j'ai fait un DEA à l'époque, Master 2 maintenant. Voilà. Et à la suite de ça, on m'a proposé une thèse. Donc une thèse sur la vibro-acoustique de l'art de concert. Naturellement, j'ai continué là-dedans. J'ai développé un certain nombre de compétences. Après mon parcours m'a emmené jusqu'à la SNCF pour travailler sur les rails et les méthodes de détection de défauts de rails. Voilà, et après j'ai été recruté ici à l'UPMC, donc tout ça évidemment en naviguant un petit peu en France. Voilà.
Alors oui, j'avais une question par rapport à votre thèse. Vous avez parlé donc de la vibro-acoustique de la harpe de concert. Vous commencez votre thèse avec une phrase d'Oscar Wilde. Vous pouvez nous l'expliquer parce que j'ai eu du mal un peu à la comprendre à la première lecture.
Ouais,
vous voulez peut-être que je la redise?
Ouais, je m'en souviens un petit peu. Ouais.
Mais pour les éditeurs. Alors, la phrase, c'est « La vie morale de l'homme est un des sujets que traite l'artiste, mais la moralité de l'art consiste dans le parfait usage d'un instrument imparfait. » En français, bien sûr.
Ouais, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que finalement, c'est ça tout l'intérêt. C'est ce que je montre aussi au travers de ma thèse. Et c'était un peu le début. Hein, alors, la thèse, il faut la remettre un petit peu dans son contexte. C'était les prémices de travaux en collaboration avec l'Institut technologique européen des métiers de la musique et le troisième fabricant mondial de harpe qui s'appelle Camac, qui se trouve dans la région nantaise. En fait, le facteur de harpe, donc là c'est plutôt un instrument industriel, est venu voir l'Institut technologique européen des métiers de la musique en disant je comprends pas quand je comprends pas pourquoi quand je pince une corde, il y en a plusieurs qui se mettent à vibrer en même temps et c'est un peu gênant dans certains cas de figure. plus, en fait, la harpe, on l'entend peu. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une méthode acoustique pour essayer d'amplifier cet instrument ? Donc ça, c'était les problématiques de base. Et finalement, quand on fait un travail scientifique, on apporte peu de réponses. On se pose beaucoup plus de questions qu'on apporte de réponses. Donc c'est un peu ce que je voulais dire par cette phrase, c'est que finalement, c'est un instrument qui est imparfait, qui a beaucoup de... Notamment le fait que quand on joue une corde, il y a d'autres cordes qui se mettent à vibrer, ce qui crée un halo sonore. Mais si on enlève ça, ça perd une caractéristique de l'instrument. Donc ça fait vraiment partie de l'instrument. Et donc on utilise un peu les imperfections des choses pour justement que ce soit caractéristique et appréciable.
Vous avez dit que vous avez beaucoup de sortes de musique. Est-ce que vous pensez de la musique actuelle qui emprunte beaucoup, par exemple, enfin, l'électro, là, qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Alors,
utilise beaucoup de sciences, enfin, en gros, on va dire, on peut dire que ça utilise beaucoup des avancées scientifiques en musique. Donc, qu'est-ce que ça apporte ?
Alors, je dirais pas que ça apporte de la, enfin, c'est pas forcément de la science, c'est des outils. C'est des outils qui ont été développés. Donc, c'est vraiment l'aspect technique. Après, la musique actuelle, là, vous pensez plutôt à la musique qu'on écoute à la radio.
Oui, exactement, la musique qui passe généralement en radio.
Bien voilà, sûr. C'est ça. Ce que je trouve... Enfin, il y a certaines choses qui sont très agréables à entendre. Le seul problème, c'est que je trouve que c'est assez limité en fréquence. C'est-à-dire que c'est la musique qui est développée quasiment pour être compressée et utilisée dans les baladeurs. Donc, ça, je trouve que ça perd d'une certaine manière notre écoute. On écoute certaines choses, mais on perd une partie de l'écoute sur des domaines beaucoup plus larges bandes. Donc, c'est un point de vue. Après, j'en écoute comme tout le monde. Voilà.
Et justement, moi, j'ai une question à propos de ça. Qu'est-ce que... Bon, il y a un peu la réponse dans ce que vous avez dit, mais qu'est-ce que vous pensez du MP3, le support du MP3 ? Est-ce que le fait de rendre l'accès à l'écoute autant de musique au dépit de la qualité, un truc bien, ou c'était mieux avant, où on écoutait moins de musique, mais de meilleure qualité sonore ?
Ouais, c'est... C'est assez difficile comme question. J'ai peut-être pas forcément suffisamment de recul pour pouvoir en parler. Le seul truc, c'est que je pense que c'est une musique qui est... Enfin, cette compression, ce type de compression est utile d'une certaine manière, puisque ça permet de diffuser. Donc la diffusion, c'est une manière aussi de s'ouvrir à des musiques qu'on n'aurait pas l'occasion d'utiliser ou de connaître, pardon. Par contre, ce que je disais, la compression MP3 va dans un sens qui est pas forcément appréciable sur l'ouverture large bande de l'écoute et peut même être préjudiciable puisque finalement pour en sentir de plus en plus les sensations au niveau basse fréquence, ce qu'on va faire c'est plutôt augmenter le niveau sonore et ça pose un certain nombre de problèmes. Faut que je fasse mon message de prévention, mais les oreilles sont, enfin surtout le système auditif, c'est périssable. Il n'y a pas actuellement de méthode pour régénérer des cellules ciliées qui auraient été cassées et ainsi de suite. Donc il faut faire très attention à ses oreilles et surtout on ne se rend pas bien compte des effets que l'on produit actuellement en écoutant la musique forte sur dans 10, 15 ans où on pourra jusque ne plus comprendre ce que dit l'interlocuteur en face parce que on aura perdu l'audition.
Edouard ?
Et donc après avoir discuté de tout ça, vous qui avez l'occasion de suivre un petit peu l'évolution des instruments de musique depuis assez longtemps, à votre avis, qu'est-ce que c'est la musique du futur ?
Alors ça, c'est une question assez compliquée. Quand on voit... Alors c'est assez étonnant quand on voit, par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur le clavecin. C'est un instrument qui était tombé aux oubliettes il y a 100, 150 ans, qui revient vraiment à la mode dans un certain style, évidemment, mais qui est de plus en plus joué. C'est presque imprévisible. Hein, c'est-à-dire que... Alors là, il faut peut-être faire une nuance entre les instruments, on va dire, acoustiques et les instruments électroacoustiques. Il y a des instruments, en fait, quelque part, on peut se dire qu'il y a un principe darwinien aussi, c'est-à-dire qu'il y a des instruments qui meurent au cours de par plein de raisons. Il n'y a pas de compositeurs qui ont composé pour ces instruments-là. C'est des instruments complètement impossibles à jouer. Un instrument un peu typique de ça, c'est l'octobasse de Viaume que vous pouvez voir à la Cité de la Musique. Un instrument, une contrebasse de 4 mètres, impossible à jouer, impossible à transporter. Il y a pas de, il y a eu quelques œuvres composées. Forcément, à la fin, c'est plus utilisé, quoi. Donc, il y a ça. Après, sur les instruments acoustiques, je crois assez fort sur les instruments. Alors là se posent des problèmes de propriété industrielle, c'est-à-dire qu'il y a des instruments qui sont développés, on va dire le thérémine, les ondes Martenot, le cristal bachet. Donc tout ça, c'est des instruments qui sont utilisés actuellement dans la musique pop notamment. Hein. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas de facteur d'instrument, si on ne perpétue pas un peu la fabrication de ces instruments-là, ça meurt. L'onde Martenot est un parfait exemple, c'est-à-dire que Maurice Martenot est mort avec, en gardant son secret de la fabrication d'une espèce de bourse de cuir dans laquelle il y avait du graphite, et c'était ça qui permettait de contrôler l'instrument de manière assez intéressante. Donc c'est un peu ça, c'est savoir comment on régénère et comment on continue de concevoir ce type d'instrument. Alors pour les instruments électroacoustiques, je pense que la problématique vient aussi de l'évolution technique, hein, c'est-à-dire qu'en fonction des différentes évolutions qu'il va avoir, bah, il va avoir différentes modifications par le futur, et là c'est un petit peu imprévisible. Mais alors ce qu'il faut voir, c'est actuellement ce qui se développe beaucoup dans tout ce qui est la musique électroacoustique, la musique de synthèse, ce que se posent beaucoup les chercheurs, et j'ai un collègue qui travaille dessus directement au LAM, c'est retrouver la gestuelle, c'est-à-dire que ça reste des instruments de musique, donc qu'on pilote, donc avec un geste du musicien, donc qui puisse contrôler avec plein de capteurs et avoir cette musicalité que n'a pas quand on appuie sur une touche d'un synthé. Et le corollaire à ça, c'est la spatialisation, c'est d'avoir d'un son qui semble réaliste et pas de haut-parleurs qui permettent de diffuser et qui rendent le son pas du tout vivant, en fait.
Alors j'avais une question tout à fait autre. Donc pour l'auditeur, est-ce qu'on peut rencontrer les gens du LAM ?
Alors oui, on peut les rencontrer. Donc actuellement, on est délocalisé depuis à peu près 20 ans, 11 rue de Lourmel, dans le 15e arrondissement. Mais le retour à Jussieu est prévu en octobre-novembre. Donc la date n'est pas clairement définie. Plutôt dans la barre 44-54, on aura des salles expérimentales tout à fait intéressantes, avec des studios d'enregistrement notamment, et une chambre anéchoïque. Donc voilà. Donc il va avoir donc avec la réhabilitation du secteur est. Donc
une chambre anéchoïque. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors une chambre anéchoïque, c'est une chambre dont en théorie il n'y a pas de réflexion. Donc ça veut dire qu'on peut crier extrêmement fort. On s'entend pas. Et deux, les autres vous entendent pas non plus. Donc ça, c'est à peu près l'effet si vous étiez sur un terrain, par exemple, où il n'y a aucun mur, aucune montagne autour, et vous criez très fort, et voilà, vous n'avez pas de retour, quoi. Donc ça nous sert, nous, à étudier un instrument sans l'effet de salle, par exemple.
Oh, merci Jean-Louis Cléocarou. Et on passe à la suite, de retour avec Raffaello.
Oui, donc toujours dans le but de découvrir ce qu'il y a dans la playlist des scientifiques, j'ai le deuxième laboratoire que j'ai visité, est le laboratoire pour l'utilisation de lasers intenses, affilié à l'École Polytechnique. J'ai parlé avec Franck Rosmedge, professeur à l'UPMC et chercheur dans ce laboratoire, et un de ses stagiaires en M2, Florian Condamine.
Quand j'ai fait mes études, jusqu'au l'âge de 22-23, et après, c'est arrêté que je m'implique, que je sais quel album est nouveau, qui fait quoi. Et aujourd'hui, après presque 30 ans, je suis pratiquement complètement découplé. Et la musique de mes filles, ça me dérange. Donc, c'est-à-dire, je restais peut-être aussi, c'est pour tout le monde comme ça, autour de 20 ans, on forme un peu le goût. Ensuite, on reste là-bas et on aime de reprendre de vieux disques et des CD enregistrés, écouter ça encore une fois. Quand je suis venu en 2003 en France, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'écoutais deux chansons françaises, par exemple Edith Piaf et l'autre chose, et Charles Aznavour. Et ça reste toujours dans mon oreille quelque part. Ma femme n'aime pas trop, mais, mais pour moi, c'est un peu cette mémoire. Je préfère la musique classique et concert de piano. Comme je dis tout à l'heure, j'écoute toujours la même chose. Hein. C'est Chopin et Rachmaninov. Je préfère la calme.
D'accord.
Couloir inclus. C'est pour cela que la porte est toujours fermée, mais c'est toujours ouvert. Quelqu'un peut entrer, mais j'ai besoin de la calme pour programmer quelque chose, pour calculer quelque chose. Je vois des collègues qui mettent un CD avec la musique classique, mais c'est à partir d'une certaine limite, j'ai besoin de la calme absolue. Oui, je préfère les silences totales, mais c'est une question à quel niveau on fait un certain travail. Hein. Si je remplis des fichiers Excel et administratifs, je peux bien mettre un CD. Mais si je vraiment essaye d'obtenir une équation qui n'est pas claire ou je rien dans la littérature, là, je préfère de me concentrer là, dans la calme absolue.
J'ai toujours écouté du rock et j'écouterai toujours du rock, ça ne changera pas, c'est sûr. Après, oui, les groupes, ça change, mais oui, j'écoute de la musique en travaillant parce qu'en fait, ça me permet de relier quelque chose à mon travail, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, pendant des révisions ou même pendant que je suis au laboratoire, écouter de la musique, il y a certains morceaux qui vont être affiliés à une tâche, par exemple, ou que je vais identifier. C'est-à-dire, quand je vais entendre ce morceau, ça va me faire penser à mon travail, ou l'inverse, ou sur autre chose, et je trouve que c'est un bon complément. Et ouais, moi, je marche bien comme ça, en tout cas. Après, j'ai des moments où tu as besoin de calme, et tu coupes la musique, parce que là, c'est vraiment... Voilà, faut vraiment être concentré, quoi. Mais sinon, ouais, j'aime bien écouter de la musique en travaillant, ça me permet de mieux appréhender les choses. Je dirais que c'est l'album que je pourrais identifier à mon stage de M1, ce serait Bankrupt de Phoenix, parce que c'est vraiment l'album que j'ai vraiment écouté quand j'étais en stage ici, ou même quand je suis parti un peu. En fait, c'est le moment où je me suis vraiment penché sur Phoenix, et ouais, c'est l'artiste que j'ai pu découvrir très très en détail pendant mon stage, et je trouve que leur musique correspond tout à fait à une ambiance détendue de travail, justement. Donc c'est pour ça que j'adore.
Donc nous avons écouté Franck Rosmedge et Florent Condamine depuis le LULI, le laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses.
Alors, merci Raffaello pour ce petit reportage. Et maintenant on touche à la fin de notre émission Radio Amiante. Vous êtes triste, hein?
Ouais, très triste. On n'a pas eu le temps de parler de tout.
Super triste.
Ouais, en tout cas, un grand merci à notre invité Jean-Loïc Le Carrou, membre de l'équipe du LAM, le laboratoire LUTRI, Acoustique Musique, et maître de conférence à l'UPMC. Vous pouvez vous retrouver sur le web au www.lam-jussieu.fr. Non, c'est pas ça.
lam.jussieu.fr.
Et aussi un grand merci à nos chroniqueurs, Mathias, Edouard, Raffaello et Victor. Un grand merci. À Margot et Jérémy à la technique. Et salut, salut.
Et merci à toi, Timothée.
Ouais. Oui, merci.
Merci à toi.
Jussieu. Lâchez-vous un peu, quoi.
Université Pierre et Marie Curie.
Radio Campus Paris.
Radio Campus Paris. Ouais, vous avez l'air très stressé, ça va aller, hein?
Je crois qu'on est prêt pour l'émission là.
Ou musique et sciences.
Radio Campus Paris.
Beaucoup de musique, je pense.
Là, c'est bon, ça rentre.
Des surprises, peut-être pas des surprises, je sais pas, on verra.
Ce teaser, que c'est bon. Ouais, je sais, y'a pas grand chose en fait, c'est ça le problème.
Non, non. C'est tout.
Je suis sûr, j'ai déjà appris radioactif. Science, moi. D'apprendre des trucs, mais bombes atomiques.
Hein, tu disais quoi?
La radio amiante.